Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Bonsoir, Maurizio Lazzarato. Wir freuen uns sehr, Sie als ersten vortragenden Gast begrüßen zu dürfen. Sie leben und arbeiten als Soziologe und Philosoph in Paris und forschen in den Bereichen Ontologie der Arbeit, immaterieller und prekärer Arbeit sowie kognitivem Kapitalismus. Weiters produzieren Sie Videoinstallationen mit Angela Militopoulos und schreiben über Kino-, Video- und Bilderproduktion. Nun erscheint Ihr vielbesprochener Text zu Schulden, La Fabrique de l'Homme endetté, Essai sur la condition néolibérale, auch in deutscher Sprache, die Fabrik des verschuldeten Menschen. Sie finden sie hier im Bookshop des HKW. Sie beschreiben darin, wie Schulden und Schuldgefühle und damit verschuldete Menschen und Generationen durch Finanz- und Machtdispositive gemacht werden und nicht einfach entstehen. Besonders wichtig ist Ihnen der Aspekt des Unendlichen, welcher ausgerechnet durch die Finanz- und Wirtschaftswissenschaften in den Schuldendienst eingeführt wurde. Maurizio Lazzarato, merci bien de vouloir prendre la parole.
Bonsoir. Donc, je remercie les personnes qui m'ont invité et je m'excuse parce que je suis malade. Donc, je vais essayer quand même de faire cette conférence. Donc, le texte que je vais lire est dédié à Gilles Deleuze. Gilles Deleuze a écrit cette phrase en 1990. L'homme n'est plus l'homme enfermé, mais l'homme endetté. Cette simple phrase, que je la trouve dans un article qu'il a écrit, ça m'avait touché à l'époque et c'est grâce à cette phrase que j'ai fait mon travail sur la dette. Si vous êtes intéressé au concept autour de la dette, les concepts les plus forts, les plus efficaces, vous les trouvez dans l'œuvre de Gilles Deleuze et de Félix Guattari. Donc, voilà. Je voudrais partir des trois énoncés, des trois savants, un philosophe, un anthropologue et un économiste qui font tous les trois une affirmation lourde de sens ou bien de non-sens. La monnaie, l'échange et les marchés nous ont finalement libérés de la servitude des relations personnelles dont la dette est le paradigme. La liberté libérale et néolibérale produite par les marchés et la monnaie, est la liberté de la dette. Si nous sommes libres, c'est parce que nous ne sommes plus et nous ne serons jamais plus endettés. Écoute, ces trois savants ne sont pas forcément libéraux. Hein. Écoutons nos savants. Commençons, comme il se doit, par l'économiste, car l'économie est l'origine et le modèle de toutes les sciences sociales. Donc je vous cite un économiste. D'où vient la liberté économique des hommes, la liberté du marché ? De la possibilité qu'ils ont de se libérer des dettes qu'ils avaient contractées auprès des puissances féodales, des dettes personnelles qu'ils avaient du vassal à suzerain ou des serfs à maître. L'abstraction de la dette, rendue possible par la généralisation de la monnaie, libère les hommes des liens personnels. La dette devient transférable, peut circuler, c'est l'essence même de l'économie monétaire. Le capitalisme invente un système égalitaire où de plus en plus d'individus ne doivent rien à personne. Le marché est donc un extraordinaire système d'abstraction, de transférabilité et de liquidation des dettes. La monnaie libère des liens de subordination personnelle puisque les dettes exprimées en monnaie rendent les relations impersonnelles, anonymes et transférables. Retenez notamment les mots « anonymes et transférables » qui, comme nous verrons, ont joué un rôle majeur dans la crise des dettes dite de subprime. Continuons avec un autre savant, un anthropologue. Les anthropologues, donc, en étudiant les sociétés archaïques, savent pertinemment que la dette, historiquement, précède de beaucoup l'échange. Donc voilà l'anthropologue. On peut se demander si sur tout l'énorme mouvement de l'économie moderne, n'est pas en définitive le dernier et le plus radical moyen d'en finir avec les dieux, d'en finir avec les dons, d'en finir avec la dette. L'économie nous libère non seulement de la dette économique, mais aussi de la dette originaire, de la dette primordiale, de la dette des vies envers les dieux et les forces naturelles. Nous allons terminer avec un philosophe qui fait une véritable apologie du marché et de la monnaie, et donnant la définition aboutie de l'individu moderne comme l'individu souverain, libéré de tout lien, de toute dépendance. Voilà le philosophe. Donc, ça, c'est un épistémologue très connu. Ouais. Dans une société non monétaire, je n'ai des créances que sur les proches à qui j'ai rendu un service gratuit. Lorsque, en revanche, j'ai fourni un service marchand, donc monétaire, celui qui en bénéficie est, par son paiement, immédiatement libéré de toute dette à mon égard. L'argent qu'il me donne constitue bien une créance, mais sur un autrui parfaitement anonyme et abstrait, donc ça devient anonyme et abstrait, à qui rien ne lie qui ne soit d'ordre de la gratitude, de la reconnaissance, de la dette. Débarrassé de tous les poids psychologiques et moraux, l'échange peut prendre son essor rationnel, efficace, libre. Ces choses n'ont pas été écrites il y a pas très longtemps, hein. Après les années 2000. Nous sommes libres, non seulement du point de vue économique, non seulement du point de vue religieux, mais aussi moral et psychologique. Avec toutes ces libertés, nous sommes l'individu accompli. Les trois savants énoncent une vérité contre-intuitive, puisque nous avons au contraire l'impression que la dette, au lieu de disparaître, elle est partout. Que les discours sur la dette privée, la dette souveraine, les remboursements de la dette, la culpabilité des débiteurs pollue nos existences depuis 6 ans de manière obsessive. Surtout dans les pays du Sud, hein, comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne, etc. Mais avant de voir les raisons théoriques et politiques qui portent ces savants à des conclusions si en contraste avec la réalité, je voudrais arrêter ma réflexion sur l'université américaine où au moins deux de ces savants que j'ai cités enseignent. Pourquoi l'université américaine ? Les États-Unis, parce que ce temple de la conservation et de la production du savoir occidental est le paradigme de l'entreprise financière et de l'économie de la dette à plusieurs titres. Elle représente d'abord la réalisation idéale du rapport créditeur-débiteur et de la production que les premiers et de la prédation que les premiers organisent aux dépens du deuxième. Ensuite, l'étudiant américain incarne parfaitement la condition de l'homme endetté. En exprimant de façon paradigmatique pour la société les conditions de la subjectivation de l'économie de la dette. Il y a quelques mois, le rapport trimestriel de l'antenne new-yorkaise de la Fed, donc de la Banque fédérale américaine des États-Unis, sur la dette des ménages aux États-Unis, rendait publiques les données sur l'endettement des étudiants américains. Au 31 mars de cette année, 2012, le total des sommes empruntées pour financer les études et qui doivent être remboursées s'élevait à 904 milliards de dollars, soit 30 milliards de plus que 3 mois plus tôt. Pour donner une idée de la grandeur de ces chiffres, il correspond à peu près à plus de la moitié de la dette publique de l'Italie et de la France, pays de plus de 60 millions d'habitants. Pour une dette beaucoup moins élevée, l'Europe et l'FMI n'ont pas hésité à détruire et massacrer un pays comme la Grèce. 6e année de récession consécutive. Et maintenant, on s'attaque à l'Espagne, l'Italie, le Portugal, etc. Ils imposent, pour des chiffres comparables ou inférieurs, l'austérité, les sacrifices, le chômage, la pauvreté et la récession à des millions de personnes. Aux États-Unis, 2/3 des diplômés sont endettés. Le nombre de personnes qui se sont endettées pour terminer leurs études est aujourd'hui 37 millions. Avec des perspectives de plus en plus réduites de pouvoir rembourser leurs dettes. Cette tendance est démontrée par l'étude de la Federal Reserve, d'où émerge que 32% des débiteurs ont plus de 40 ans, et 5% même plus de 60. On s'endette avant de rentrer dans les marchés du travail, et on s'endette pour la vie. Un foyer sur 5, 20%, devait en 2010 rembourser un prêt étudiant aux États-Unis. La Fed rappelle que les prêts étudiants sont devenus le deuxième poste d'endettement des ménages américains en 2010, passant devant les empreintes contractées par la carte de crédit. Donc, à mon avis, cette situation de l'université américaine, des étudiants de l'université américaine, représente, je l'ai pris seulement comme un exemple de ce qui se passe dans les sociétés néolibérales et du projet politique qu'il y a derrière cette façon de comprendre, de remplacer un service, comme celui de la formation, de l'instruction, un service et un droit social, un crédit. Hein? Alors, vous imaginez, les deux savants dont j'ai cité tout à l'heure, les citations qui disent que la dette nous libère, que l'économie nous libère de la dette, que la monnaie et l'échange nous libèrent de la dette, font ces discours à un public qui est composé pour 60% par des débiteurs et 40% par des riches, donc par des fils de créditeurs. Vous voyez l'absurdité de cette théorie et comment on peut... à quel niveau sont tombées les sciences sociales sous la dimension néolibérale. On peut continuer, parce que l'exemple, on peut filer cette métaphore, parce qu'effectivement, la dette des étudiants américains se comporte exactement comme la dette des subprimes. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains, les banques américaines, ont transformé la dette en titre, exactement comme ils ont fait avec les subprimes. Et ces titres ont été à nouveau mis sur les marchés, ils peuvent être achetés et vendus. Donc, plus d'un tiers de ces titres sont titrisés. Et il est en train de se constituer une bulle, exactement comme la bulle de subprime. Elle n'aura pas la même dimension, mais la logique, c'est exactement la même. On emprunte à tout le monde, même aux pauvres, et en même temps qu'on emprunte, on les appauvrit. On donne de l'argent pour accéder au crédit, on les appauvrit financièrement, et donc ils ne peuvent pas payer finalement. Et d'ailleurs, je vous avais fait noter que selon les savants tout à l'heure, la dette, donc la monnaie était nous libérer de la dette parce qu'elle était anonyme. À travers la monnaie, on pouvait rendre anonyme et transférable les dettes. Mais c'est justement la transférabilité et le fait que les dettes sont devenues anonymes qui est à l'origine de la crise qu'on est en train de subir en Europe. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec la titrisation des subprimes? Avec la titrisation des subprimes, on a transféré les dettes, on les a transférées aux banques, parce qu'elles les ont achetées comme titre. Ils ont ouvert un nouveau marché sur lequel on pouvait spéculer, et les banques ont été remplies de ces titres pourris. Donc la transférabilité était une des origines de la crise. Ce n'est pas qu'elle nous a libérés de la dette, elle nous a introduits dans la dette. Et l'autre... L'anonymat, c'est l'autre cause de la crise, parce qu'ils ne savaient pas où c'était. Les banques, même les banques ne savaient pas combien de titres pourris ils avaient et où ils étaient. Donc, les deux arguments, anonymat, transférabilité et abstraction, ne sont pas ce qui nous libère de la dette, mais ce qui nous enchaîne à la dette. Et la dette introduit un nouveau type de rapport des contrôles politiques sur la population. Ça, c'est très important. Et je vais l'écrire toujours à travers l'exemple des étudiants, mais c'est ce qui est en train de se passer en Europe. Ça, c'était... Deleuze l'avait déjà dit, quand il parlait justement de l'homme n'est plus l'homme enfermé, donc il fait référence à l'homme emprisonné, à l'homme dans l'usine, à l'homme dans l'hôpital, donc à la société disciplinaire de Foucault. Il dit, c'est plus cet homme-là, c'est l'homme endetté. Et les formes de contrôle qui s'exercent sous l'homme endetté et sous l'homme prisonnier, enfermé, sont différentes. Et on va essayer de les décrire très rapidement à travers l'exemple des étudiants américains. La dette, comme rapport de pouvoir entre créditeur et débiteur, implique une subjectivation particulière du débiteur. Le pouvoir de contrôle et de contrainte ne vient pas de l'extérieur, comme dans les sociétés disciplinaires, mais de l'intérieur du sujet débiteur lui-même. C'est ici, l'origine de la culpabilité, elle est là. L'étudiant est son propre chef, son propre contrôleur. L'ouvrier, je prends une des figures de l'homme enfermé, l'ouvrier est contrôlé dans un espace fermé qui correspond au mur de l'usine, pour un temps limité, 8 heures de travail, ça dépend où il travaille, s'il travaille en Chine, c'est pas la même. Bon. Et par des personnes et des dispositifs qui lui sont extérieurs et facilement reconnaissables. Pour résister, il peut s'appuyer non seulement sur des ressources individuelles, mais aussi sur les collectifs de travail et ses solidarités. Le contrôle par les dispositifs de la dette s'exerce de manière absolument différente. Son espace, donc l'espace d'action de la dette, n'est pas fermé. Et le temps sur lequel s'exerce le contrôle et la contrainte n'est pas limité. L'espace et le temps sont ceux de la vie même, puisque la durée d'un remboursement se déroule, pour les étudiants par exemple, sur 20-30 ans. Et pendant cette durée, c'est le débiteur qui doit organiser sa vie en fonction du remboursement de la dette. La question du temps, de la durée, est au cœur de la dette. Pas le temps du travail, mais le temps de la vie. La dette lance un pont entre le présent et le futur, en anticipant et en exerçant une préemption sur l'avenir. À travers la dette actuelle, on essaie de déterminer et de contrôler les comportements futurs. La dette est une technique d'individualisation et de destruction de toute solidarité et des possibilités d'action collective. L'endetté est seul individuellement responsable face au système de crédit. Il ne peut compter sur aucune solidarité, sinon sur celle de la famille qu'il risque d'endetter à son tour, ce qui se passe aux États-Unis. Les familles s'endettent pour payer les études de ses enfants. Ils se sentent honteux et coupables. Le seul moment où les étudiants américains ont commencé à faire une sorte de coming out est pendant le mouvement Occupy Wall Street. La lugubre théorie freudienne du surmoi qui commande et culpabilise le moi pourrait être reformulée sans beaucoup d'exagération à travers la relation créditeur-débiteur. Le surmoi créditeur impose ses conditions au moi débiteur de façon que le chantage, la mauvaise conscience, la culpabilité se jouent tout à l'intérieur du sujet. L'ennemi, le coupable, est interne à la subjectivité. La dette est ce dispositif même de production de subjectivité et il est adéquat à la fabrication du capital humain et de l'entreprise de soi, que ce sont les formes de subjectivation, fondamentalement être capital humain et entrepreneur de soi, les formes de subjectivation de la logique néolibérale. L'étudiant américain non seulement doit considérer soi-même comme un capital qu'il doit valoriser par ses propres investissements, les crédits qu'il contracte pour étudier, mais il est obligé d'agir, de penser et de se comporter comme s'ils étaient une entreprise individuelle. La dette impose un apprentissage des règles, de la comptabilité, des principes d'organisation d'une entreprise à des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Les étudiants ont tous les inconvénients et aucun avantage de s'être transformés en entreprise individuelle. Malgré qu'ils soient obligés de se comporter comme une entreprise, la faillite n'est pas possible puisque la loi ne les contemple pas. Donc ils sont en train d'essayer d'introduire une loi, comme par exemple il y en a en France, pour la faillite individuelle. Et l'autre chose intéressante, justement, pour répondre à ces trois savants, sur le fait que la dette est annulée ou est neutralisée par la monnaie, c'est qu'au contraire, chacun de nous porte la relation débiteur-créditeur dans sa poche. C'est ça qui est très étonnant. Comment on peut affirmer des choses comme ça quand vous achetez tous les jours quelque chose avec la carte de crédit? On peut encore utiliser les étudiants pour parler d'un autre comportement des Américains en général et de leur rapport crédit-dette. C'est un comportement que le néolibéralisme essaie de généraliser. En 2008, 84% des étudiants américains avaient au moins une carte de crédit, contre seulement 76% en 2004. Mais plus surprenant, les étudiants possèdent en moyenne 4,6 cartes de crédit. Cette dérive s'explique par la flambée du coût des études universitaires. Au lieu de disparaître, les Américains, comme les Anglais, portent les crédits dans leur poche. La relation débiteur-créditeur est inscrite dans la puce de leur carte de crédit. Chaque achat est un acte financier qui mobilise les crédits et la dette. Donc, au lieu de disparaître, la dette nous accompagne dans le monde merveilleux de la société de consommation et devient une dette infinie. Une citation de quelqu'un qui a fait un bon travail sur cette histoire de la carte et de la dette. Il dit: alors que les crédits à la consommation se faisaient sur demande explicite, les systèmes de cartes automatisent les crédits. L'inversion de l'initiative est ici exemplaire. Avec les cartes, la relation des crédits est toujours déjà mise en place. Nous ne sommes plus demandeurs de crédits, mais accepteurs de cartes. Le système de paiement par carte met ainsi en place une structure de dette permanente. Donc, vous voyez tous les défauts de la crise que nous sommes en train de vivre, hein, ils ont une origine structurelle. Ce n'est pas le fait que les Grecs consomment, ils ne travaillent pas, le fait que les Espagnols consomment trop et tout ça. C'est du fait que le mode d'accumulation néolibéral s'est construit comme ça. S'est construit, et là, on a l'exemple, hein, avec l'université américaine. Qui paye les études, qui paye l'université, qui paye les structures, ce sont les étudiants même. C'est ce qu'ils veulent faire avec la société. La société doit tout payer. Je termine cette partie avec une phrase d'Aristote qui dit « Les savoirs et l'argent n'ont aucune commune mesure. » Donc, les savoirs et l'argent n'ont pas de commune mesure. La finance, passant outre cette affirmation, a établi une mesure arbitraire, mais normative et efficace du savoir. Les crédits contractés et les délais de remboursement constituent les prix pour accéder à la science et à la vérité. C'est ça l'état du savoir dans la société américaine et dans les sociétés occidentales. Maintenant, je voudrais aborder les thématiques un peu plus théoriques, hein, les raisons pour lesquelles nos savants disent que la monnaie et les marchés nous libèrent de la dette. Je voudrais toucher aux raisons théoriques qui conduisent nos savants à des conclusions si improbables. Je me limiterai à soulever la question de la monnaie. La monnaie, une fois perdu son rapport à l'or, est-elle finalement et uniquement une dette? Est-ce que la monnaie est dette? Si la monnaie est dette, la dette n'a pas disparu, elle s'est seulement généralisée. C'est exactement le contraire de ce que disent les savants tout à l'heure. Et je ferai, et pour deuxième question, je vais faire appel à Nietzsche pour comprendre la nature de la dette, en me concentrant notamment sur la question suivante. La dette dans le capitalisme contemporain, est-elle une dette infinie? La monnaie à laquelle nos savants attribuent la capacité de nous libérer de la dette, c'est ça le problème, hein? Ça dépend de à quelle monnaie vous faites référence, hein? Donc, la monnaie à laquelle nos savants attribuent la capacité de nous libérer de la dette est la monnaie marchande, la monnaie moyenne de paiement, la monnaie moyenne de mesure, de thésaurisation. La monnaie échange, comme on pourrait aussi l'appeler, cette monnaie, est l'une des monnaies en circulation. Mais, dans les sociétés capitalistes, ce n'est pas elle qui joue un rôle stratégique, puisque ce n'est pas cette monnaie qui incarne le pouvoir du capital. La monnaie spécifiquement capitaliste est l'argent capital, la monnaie de crédit, la monnaie dette. Donc, il parle des sociétés capitalistes comme si c'était des sociétés marchandes. Hein? Ça n'a rien à voir, c'est deux choses complètement différentes. La monnaie échange présuppose et réalise un rapport symétrique et contractuel entre producteur et échangeur, tandis que la monnaie capital instaure un rapport asymétrique d'exploitation, de différenciation de classes, d'appropriation privative. Marx disait, parce que Marx quand même, il a dit des choses qui sont toujours valables, hein? Marx disait que sur la monnaie échange, celle dont parlent les savants, on peut lire la devise de la Révolution française, liberté, égalité. Mais sur la monnaie capitale, on peut déchiffrer d'autres mots, domination, exploitation, puissance de destruction, création, dette, désir, prédation, vol. Capacité de prescrire ce qui va être produit, de quelle manière, en distribuant de façon asymétrique des places et des fonctions. À la rationalité de la monnaie d'échange, qui favorise le doux commerce, comme disait un philosophe français, hein, qui favorise le doux commerce, l'éviction de la violence, le véhiculant la liberté, égalité et fraternité, s'oppose à la rationalité irrationnelle de la monnaie capitale. Gilles Deleuze la définit de façon qu'on peut facilement reconnaître ses effets dans la crise contemporaine. L'argent, le capital-argent, c'est un point de démence tel qu'il n'aurait en psychiatrie qu'un équivalent, ce qu'on appelle l'état terminal. Le capital-argent atteint l'état terminal dans les mécanismes boursiers, qui est tout à fait rationnel, on peut le comprendre, l'apprendre. Les capitalistes savent s'en servir et pourtant, c'est complètement délirant, c'est dément. Gilles Deleuze a élaboré la plus importante théorie de la monnaie après Karl Marx, mon modeste avis. L'Anti-Édipe, donc le livre écrit par Deleuze et Guattari, nous signale qu'entre les deux monnaies, donc entre la monnaie échange, celle que vous avez dans votre poche, hein, celle avec laquelle on achète de la bière quand on a soif, hein, et la monnaie par contre qui est inscrite dans les flux de financement des banques et des entreprises, donc entre ces deux monnaies, il y a une différence de nature qui s'exprime par une différence de puissance, et que la monnaie échange est subordonnée à la monnaie capitale. Les confondre et les rendre homogènes constitue une escroquerie cosmique, dit Deleuze et Guattari dans l'Antiédipe. Pire encore, ne prendre en considération que la monnaie échange et ignorer la monnaie capitale, comme font les non-savants, est la réalisation de l'escroquerie. Et maintenant, je vais passer un peu à cette théorie de la dette des vies. Donc là, j'ai essayé d'établir qu'il faut, il faut réviser le concept de monnaie. Hein. On ne peut pas dire que la monnaie nous libère de la dette, ça dépend avec quel type de monnaie on parle. Mais laissons de côté les trois savants qui se sont engagés dans une voie sans issue et analysons la théorie monétaire de l'école française de la régulation qui introduit des nouveautés remarquables par rapport à l'économie standard. Ici, dans cette école, la monnaie n'est pas déduite comme dans l'économie politique classique et néoclassique, du troc d'abord et de l'échange marchand ensuite. Mais elle est déduite de la dette. Ce déplacement majeur est immédiatement neutralisé par une conception transcendante, holiste, totalisante de la dette, dette d'existence, dette originaire, hein, dette de vie. Quand vous entendez quelqu'un parler de dette, des vies, vous pouvez être sûr qu'il est ou bien un prêtre, un homme d'État ou un psychanalyste. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de s'échapper. La dette est dette primordiale, dette originaire, dette vie, c'est-à-dire reconnaissance d'une dépendance des vivants à l'égard des puissances souveraines, dieux et ancêtres, qui ont leur consenti une part de la force cosmique dont elles sont la source. En contrepartie du don de cette puissance vitale, les vivants sont dans l'obligation de racheter cette dette. Rachat qui n'a pas de fin, puisqu'en réalité, la dette de vie est une dette infinie. La conception de la dette de vie chez Deleuze et Guattari et Nietzsche est tout à fait différente. Elle ne renvoie pas ni à la nature, ni à la nature, ni à l'universel. Parce que ces théories, pratiquement, disent que la dette, hein, elle est liée à la nature humaine. C'est la même chose. Hein. Les péchés originels, c'est la même origine. Hein. Le péché originel, c'est quelque chose qu'on a dès qu'on est, et est impossible d'échapper de la dette parce que la dette fait partie de la nature humaine. Donc il y a une naturalisation de la dette. Et ça, c'est la conception la plus commune que vous trouvez dans toutes les économistes, même les économistes critiques, les anthropologues, voilà, la dette originelle. Par contre, toujours chez Deleuze, Guattari et Nietzsche, on trouve une conception de la dette un peu différente, même radicalement différente. La conception de la dette de vie chez Deleuze, Guattari et Nietzsche est tout à fait différente. Elle ne renvoie pas ni à la nature, ni à l'universel. La dette originaire n'est pas l'expression du lien d'appartenance des individus à la communauté. Elle n'est pas non plus le signe d'un endettement originel transmis à la naissance d'une créance inaugurale qu'on ne pourra jamais racheter. Au contraire, elle est produite par une situation politique située dont on peut tracer la généalogie et l'histoire, puisque ce sont les sociétés hiérarchisées, étatiques, monothéistes qui introduisent la dette d'existence, la dette de vie, la dette primordiale. Pour les savants de l'école de la régulation, la dette des sociétés archaïques est une dette qu'on ne peut pas racheter. Elle est inépuisable, est une dette qui est inépuisable, tandis que dans le capitalisme, on peut toujours se libérer des dettes par un paiement monétaire. C'est ce que disait aussi nos savants. Deleuze et Guattari affirment exactement le contraire. Les sociétés archaïques étaient caractérisées par une dette finie et mobile, tandis qu'avec l'événement des empires, des États, ce qu'ils appellent Urstadt, des religions monothéistes, la dette devient dette infinie. Une citation de l'Antiédipe. L'abolition des dettes ou leur transformation comptable ouvre la tâche d'un service d'État interminable. qui se subordonne toutes les alliances primitives, problème de la dette. Les créanciers infinis, la créance infinie a remplacé les blocs de dette mobiles et finis. Il y a toujours un monothéisme à l'horizon du despotisme. Il y a toujours un monothéisme à l'horizon de la dette de vie, on pourrait dire. La dette devient dette d'existence, dette de l'existence des sujets eux-mêmes. Le capitalisme, en introduisant l'infini dans l'économie de la production, continue et prolonge la dette infinie des sociétés impériales étatiques et la culpabilité aussi infinie que les religions monothéistes associent à la dette. Les citations que j'ai tout à l'heure en effet sont des citations des Védas, justement. Le capitalisme financier a encore intensifié cette tendance parce qu'il a installé la finance et la monnaie des crédits au cœur de l'accumulation capitaliste, de façon que la dette devient son moteur. Si on est dans cette situation, non est parce que quelqu'un a fait des fautes, c'est parce que la finance, c'est le cœur de l'accumulation capitaliste. Ça, il faut le comprendre, c'est très banal, mais il faut le comprendre. Si vous mettez la finance au centre, vous faites la cause, l'origine, la finalité de la production, elle ne pourra que produire que des dettes et des crédits, par définition. Le capitalisme financier fait de la dette une promesse qu'on peut honorer, mais seulement pour en contracter d'autres, sans jamais pouvoir interrompre ces mauvais infinis. La crise est là pour nous le rappeler. On peut effectivement rembourser des dettes individuelles, mais on ne peut pas rembourser toutes les dettes, hein, parce que la relation fondamentale dans le capitalisme financier, c'est la relation créditeur-débiteur. Hein, c'est ça la relation qui devient fondamentale, sur laquelle se réorganisent tous les autres types de relations, capital-travail, welfare-service, et la relation débiteur-créditeur. Et là, je voudrais revenir à Nietzsche et la généalogie de la morale, parce que, aussi bien que pour Deleuze, Guattari, que pour moi, c'est un passage fondamental, cette intuition géniale du philosophe allemand, dans la deuxième considération de la généalogie de la morale, il a introduit cette idée magnifique de la dette. Deleuze, c'est un des rares philosophes, depuis 1962, il est fidèle à cette idée que le rapport social fondamental, c'est pas les rapports d'échange, ni les rapports symboliques, c'est les rapports débiteur-créditeur. C'est pour ça qu'on trouve, 40 ans après, la phrase que j'ai citée au début. Nietzsche et la généalogie de la morale sont directement ou indirectement, à travers la lecture qu'en font Deleuze et Guattari, à l'origine de mon travail sur la dette. Les anthropologues font la fine bouche à propos de la deuxième dissertation, puisqu'ils considèrent que son contenu ne correspond pas à ce que leur discipline a su voir dans les sociétés archaïques. Prenons par exemple David Graeber, qui a écrit récemment un gros livre sur la dette. Selon cet auteur, Nietzsche accepterait les prémices de Adam Smith, selon qui la vie est échange. Mais à la différence de ces derniers, il donnerait la mesure de ce que devient le monde lorsqu'on l'interprète en termes commerciaux. Donc, une espèce de banalisation du point de vue de Nietzsche. Toujours selon cet auteur, à partir de la thèse d'Adam Smith, Nietzsche ne ferait rien d'autre que confirmer la théorie de la dette originelle, de la dette primordiale, de la dette de vie, que nous avons vue à l'œuvre chez les économistes hétérodoxes. À l'encontre du philosophe allemand, Graeber pense que la dette est seulement un échange pas encore terminé, et donc un échange qui présuppose l'égalité des contractants. L'égalité est suspendue pendant le temps du remboursement, mais elle peut être rétablie, et avec elle la réciprocité, une fois que la dette est honorée. L'anarchiste pense à l'unisson de nos savants et de l'économie politique. La dette est toujours remboursable. La dette est une relation qui se déploie à l'ombre d'une égalité éventuelle. Elle peut toujours être honorée, et par conséquent, on peut toujours expier la faute qui l'accompagne. Notre hypothèse énonce exactement le contraire. Dans le capitalisme, et notamment dans le capitalisme financier, la dette est infinie, impayable, non expiable, sinon par un rachat politique, comme dirait Benjamin, Walter Benjamin, et jamais par un remboursement monétaire. Comment on était arrivé à des conclusions si diamétralement opposées? Nietzsche peut très bien nous aider à démêler cette question d'une brûlante actualité. La dette est-elle remboursable dans le capitalisme ou pas? On va se concentrer très rapidement seulement sur quelques concepts qui peuvent immédiatement résonner avec notre actualité. Premièrement, la généalogie de la morale n'a pas d'abord la prétention de fonder une anthropologie. Elle est une polémique ouverte, d'une part, avec la conception échangiste-utilitariste, qui importe l'utilité de Nietzsche, et avec la conception contractualiste, qui importe le contrat, dit toujours Nietzsche, hein, donc contre cette conception de l'économie politique. Et d'autre part, avec la théorie de la valeur que l'échange produirait. Donc, l'économie politique, c'est une théorie échangiste, contractualiste, hein, et dont la valeur serait produite par l'échange. À l'économie politique qui s'est appropriée de la catégorie de la valeur, en la faisant dériver de l'échange, Nietzsche oppose précisément la tâche future du philosophe. Résoudre les problèmes de la valeur, déterminer la hiérarchie des valeurs, savoir ce que vaut telle ou telle table de valeurs, interroger la valeur des évaluations. Pour critiquer les valeurs morales, il faut commencer par mettre en question la valeur même de ces valeurs. Donc vous voyez, il y a un déplacement radical par rapport à cette façon anglaise de penser. Justement, ce concept fondamental de la valeur. Deuxièmement, donc ça c'est le premier point, deuxièmement, pour Nietzsche, la dette n'implique pas l'égalité et la réciprocité, mais son contraire. Si les crédits dette et non l'échange constituent l'archétype de l'organisation sociale, c'est parce que les forces en jeu ne sont pas égales, mais asymétriques. Les crédits mobilisent des forces actives et des forces réactives, aussi bien dans les relations entre humains qu'à l'intérieur de chaque humain. Donc, la dette est le lieu de confrontation des forces supérieures et des forces inférieures, dont l'objectif est la construction d'une subjectivité capable de promettre. Parce que vous savez, qu'est-ce que c'est la dette? La dette, c'est une promesse de remboursement, hein, c'est tout bêtement ça. Hein. Donc, le problème de Nietzsche, c'est qu'il faut construire un homme qui est capable de maintenir une promesse. Donc, une chose fondamentale, c'est que l'économie de la dette, elle est inséparable d'une production de subjectivité. Les deux choses vont ensemble. Il n'y a pas structure et superstructure comme dans le marxisme, hein, l'économie et après les sujets. Là, il faut le construire ensemble. Et la promesse, et donc la capacité de promettre, présuppose une mémoire. La mémoire des paroles que la dette s'implique à fabriquer. Nietzsche dit que l'homme c'est l'oubli incarné et donc il faut effacer cet oubli et le remplacer par cette capacité de promettre. Le rapport créancier-débiteur exprime l'activité de dressage et de formation de la subjectivité avant d'avoir une signification économique dans le sens moderne du terme. Donc ce qu'ils essayent de faire maintenant, les effets économiques de la dette s'accompagnent avec une production de l'homme endetté, si vous voulez, hein, de l'homme coupable, de l'homme à qui on fabrique une mémoire de la culpabilité. Et d'ailleurs, ça donne des choses absolument comiques, hein, cette volonté de produire la culpabilité. Si vous suivez un journal télévisé, hein, surtout dans les pays comme Espagne, Italie, Grèce, etc., hein, l'essence de l'information, c'est vous êtes coupable. Hein. La dette, c'est votre responsabilité. Vous ne travaillez pas suffisamment, vous soignez trop, hein, vous voulez partir à la retraite trop tôt. Vous êtes coupable. Mais dès que les journaux télévisés s'arrêtent et commencent la publicité, il y a toute une autre logique. Hein. C'est une autre logique qui se met en place, c'est la logique de la publicité, qui par contre dit vous êtes absolument innocent, hein, vous n'êtes pas coupable. Hein. Parce qu'il y a deux morales dans le capitalisme, la morale du travail et la morale de la dette, qui sont des morales de la culpabilité, et la morale de la consommation, qui est une morale de l'hédonisme. Hein. Avant la crise, ces deux choses marchaient relativement bien ensemble, maintenant elles sont en opposition. De toute façon, cette idée de rendre les gens coupables, hein, c'est un des objectifs de cette crise. Revenons à Nietzsche. Troisièmement, la question du temps, qui, comme dit Bergson, s'il n'est pas création, il n'est rien du tout. Cette question du temps est très importante, hein, et ça c'est une autre chose qu'on trouve absolument chez Nietzsche. L'échange est instantané. Vous changez, c'est fini. Tandis que le propre de la dette est d'inclure, de contrôler, d'exploiter le temps en actualisant le futur. La dette est une promesse de remboursement et elle concerne donc le futur en tant que temps ouvert et indéterminé, en tant qu'incertitude, en tant qu'impossibilité de prévoir. La dette est le dispositif capitaliste pour fermer et préempter ce temps de l'incertitude. Il ne suffit pas de dire, comme dit Graeber, que la dette a un échange non terminé. Ça ne veut rien dire en réalité, hein. Puisque la durée, le temps, l'avenir constituent la différence spécifique par rapport à l'échange. Nietzsche dit « élever un animal qui puisse promettre » signifie pouvoir disposer à l'avance de l'avenir. Répondre de soi comme avenir. C'est ça. Hein? Le capitalisme, c'est ça, c'est ce contrôle du temps. C'est enlever l'incertitude, enlever le temps comme création, comme je disais tout à l'heure avec Bergson. Hein. C'est enlever cette possibilité. On parle des sociétés de la créativité, de la connaissance, n'importe quoi. C'est bloquer cette possibilité de la création. La symétrie n'est pas seulement entre les forces actives et forces réactives, comme on a dit tout à l'heure, hein, mais renvoie aussi au temps. Maîtrise et appropriation et expropriation du temps, et par là encore la subjectivité. Quatrièmement, Nietzsche marque très clairement le passage de la dette finie et remboursable à la dette finie, infinie et impayable. Donc chez Nietzsche, il y a déjà ce passage, très clairement. La dette de vie, la dette originaire, la dette primordiale, est une production relativement tardive, imposée d'abord par la contrainte de la société, ensuite par l'État et enfin par les religions monothéistes. Citation de Nietzsche, « Ce changement n'a pas été ni progressif ni volontaire. Il a été une conséquence d'une rupture, d'un saut, d'une contrainte, d'une fatalité éluctable. » Et c'est ça qui introduit l'Urstat, l'État. Hein? À partir de ces sauts, les hommes sont redevables à la société, à l'État, aux dieux, et les forces actives de la dette finie devaient dresser pour agir les forces réactives. À partir de ces sauts, les hommes sont redevables à la société, à l'État, aux dieux. Maintenant, citation de Nietzsche, maintenant la perspective d'un rachat défini devrait se fermer une fois pour toutes de façon pessimiste. Et l'impossibilité de s'acquitter de la dette engendrait l'idée de l'impossibilité d'espier, l'impossibilité du rachat. Et le christianisme viendra confirmer cette théorie. Donc, comme je dis tout à l'heure, c'est l'apport, donc on revient là, on revient à la situation actuelle, l'apport entre créanciers et débiteurs, comme l'apport entre forces actives et réactives, comme maîtrise du temps, en tant que dette infinie, et investie et continuée par le capital, qui avec le capital financier, en fait son apport dominant. Dans le capitalisme financier, il est impossible de s'acquitter de la dette, puisque le capital comme monnaie, c'est-à-dire le crédit, est par définition dette. Hein? Depuis que la dette s'est séparée de l'or, La monnaie n'est rien d'autre qu'une écriture. Hein? Elle est dette par définition. Si vous faites de la monnaie de crédit, c'est-à-dire de la dette, l'homme égal alpha de la valorisation du capital, le remboursement ne pourra jamais se réaliser, sous peine d'extinction du rapport du capital même. Le rapport créditeur-débiteur ne peut jamais être soldé, puisqu'il constitue le rapport de domination politique, mais aussi d'exploitation économique. Honorer ses dettes signifie sortir de la relation créditeur-débiteur et donc aujourd'hui sortir du capitalisme tout court. On peut honorer ses dettes individuellement, mais on ne peut pas honorer toutes les dettes. Si on pouvait. Parce que le capitalisme, au contraire de ce que pensent les savants, que j'ai cité tout à l'heure, ils pensent que le capitalisme, c'est une société et un fonctionnement fondé sur l'équilibre. Au contraire, c'est fondé sur le déséquilibre continu, sur la crise permanente. Et là, on est arrivé à la vérité du capitalisme. On parle de crise, mais ça, c'est une catastrophe. La crise a commencé en 1973, c'est 40 ans qu'on vit dans la crise. Là, c'est un approfondissement de la crise, que moi, j'appelle catastrophe. Et je ne peux pas approfondir ça. Le remboursement est logiquement la mort du capitalisme, puisque le différentiel de classe s'exprime précisément à travers les crédits dettes. Les crédits étant les moteurs de la production sociale, ils doivent être systématiquement remboursés, mais immédiatement et nécessairement renouvelés, à l'infini. Le capitalisme ne nous libère pas de la dette, il nous y enchaîne. Ce n'est pas par une politique, ce n'est pas à travers cette, une politique économique de remboursement qu'on va se libérer. Seulement par un acte politique, on pourra se rembourser. Et je vais terminer. Pour conclure, contrairement donc à une opinion partagée par tout le monde, les anarchistes aux néolibéraux, la dette du capitalisme contemporain est impayable, non remboursable, infinie. Mais on peut exprimer de façon encore plus précise le fonctionnement du crédit à travers les catégories non pas économiques, mais littéraires de Franz Kafka, qui sont particulièrement adaptées à notre condition de débiteur, puisque comme K, donc le personnage des romans de Kafka, nous sommes tous présupposés coupables sans avoir commis aucune faute. Je pense que c'est le personnage qui s'approche le mieux de la situation existentiellement de notre situation. Là, j'ai repris les trois formes d'acquittement qu'on trouve dans les procès. La forme de la dette contemporaine ressemble moins à l'acquittement permanent, donc c'est une catégorie de Kafka. On passe d'une dette à une autre, on souscrit un crédit, on le rembourse et ainsi de suite, qu'à l'atermoiement illimité. Je ne sais pas comment on traduit. Où on est endetté de façon continue et la dette n'est jamais et ne doit jamais être honorée puisque le crédit n'a pas été octroyé pour être remboursé, mais pour être en variation continue. Ce concept d'atermoiement illimité, il rend parfaitement l'idée de cette variation. On donne le crédit parce qu'il y a une variation continue comme le spread. Hein. Le spread varie tous les jours. Moins, plus, on calcule les variations minimes. Hein. On voit que des courbes de variation. Et les courbes de variation sont rendues très bien par l'atermoiement illimité à laquelle est soumis K. C'est la situation du consommateur américain, mais c'est aussi notre situation. La dette souveraine est en variation continue. Et le spread, donc le spread, c'est la différence entre les taux que paye l'Allemagne et les taux que payent les autres pays. Hein, nous renseigne sur l'ampleur de ces oscillations en temps réel. Les variations de la dette publique mettent à leur tour en variation continue nos salaires, nos revenus, nos services sociaux, mais toujours dans la même direction, à la baisse. Et en variation continue, nos impôts, mais toujours dans la même direction, à la hausse. Par conséquent, le remboursement qui est imposé au peuple européen est une arme politique pour intensifier et accomplir les projets néolibéraux, puisque tout le monde sait très bien qu'aussi bien du point de vue quantitatif, les sommes sont trop importantes, que du point de vue qualitatif, dans le capitalisme financier, la dette est en variation continue, la dette est impayable. Tout le monde sait qu'on ne peut pas la payer. Même Merkel commence à se percevoir que peut-être la Grèce, il faudra ne pas faire payer la dette. Hein. Comme d'ailleurs, le démarrage de l'Allemagne a été possible parce qu'ils lui ont effacé la dette. Hein. Nous devons assumer, renverser ces dispositifs et donner un autre sens à l'impossibilité de rembourser rembourser, donc l'impossibilité de rembourser, et tout simplement ne pas payer. On me reproche souvent de dessiner tableau sombre de la situation. Pour finir comme j'avais commencé, je reprendrai une phrase de Gilles Deleuze. Donc pour finir, je prends une autre citation de Gilles Deleuze. Il n'y a pas lieu de craindre ou d'espérer, mais de chercher de nouvelles armes. Merci.